petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
La semaine dernière, je vous ai proposé de cerner en partie l'état d'esprit complexe des Français en cours de sortie de crise sanitaire. Aujourd'hui, je souhaite avec vous tenter modestement de discerner des pistes en philosophie morale et politique dans la perspective de l'après-Covid. Il ne s'agit pas d'élaborer des programmes avec solutions toutes faites, mais de dégager des orientations personnelles et communautaires qu'un grand nombre peut partager. Vers un nouveau contrat social, vers un ressourcement chrétien de la dignité de chaque personne, vers des voies et moyens d'une écologie intégrale. En trois points, des réponses sociales, morales et écologiques aux questions contemporaines. Commençons par le social. Un contrat social est un accord implicite, ou bien écrit, discuté de façon informelle entre les citoyens en quête de cohésion sociale et de valeurs communes. On peut dire que nous vivons en 2010 avec le contrat social du siècle des Lumières, le 18e, et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Dans son article 4, cette déclaration stipule que la liberté est la possibilité de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est bien l'idée principale de ce contrat social du guerrier fatigué. Je m'explique. Rousseau, en effet, nous explique dans son livre Le Contrat Social, 1762, que les gens sont las, les citoyens, c'est pour ça que j'hésite, quoi, c'est pas des citoyens encore, les gens sont las de s'entretuer pour piller les autres. Les hommes se sont informellement mis d'accord pour éviter ça, pour arrêter le massacre. Cet accord, sans formuler de façon définitive, ne sera finalement écrit qu'en 1789, Rousseau étant mort depuis 11 ans. Cet accord, ce contrat social, est en quelque sorte un armistice, un cessez-le-feu d'une guerre civile chronique. Sa philosophie est que la liberté des uns, désormais, s'arrête où commence celle des autres. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Tout éducateur, d'hier et d'aujourd'hui, le répète en étant profondément convaincu. Mais mon but n'est évidemment pas de renier cet armistice, mais d'aller jusqu'au traité de paix. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose la coexistence pacifique entre les hommes, mais pas plus, pas plus. Ce n'est pas un accord de coopération, ni de solidarité. Le libéralisme va s'en contenter. Et reconnaissons volontiers que ce contrat social n'est pas désuet, ne serait-ce que parce que ni les préambules de nos constitutions françaises, républicaines, ni la communauté internationale ne proposent d'alternative. Même si, il est vrai, il y a eu depuis, par exemple, il y en a eu d'autres, mais enfin, le contrat social du Conseil national de la résistance au début des années 1940. Mais il ne s'agit pas ici que de vouloir une mise à jour. Nous devons prendre conscience que le contrat social de 1789 a quand même le tort de désigner autrui comme un ennemi potentiel. Dire que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres conviendrait même beaucoup mieux à la définition de la propriété et à ses limites cadastrales. Commencer, finir, des limites. qu'à la liberté qui n'est plus la liberté si elle est soumise à des limites. Si autrui est la limite de ma liberté, je reste donc sur le qui-vive et je veille à mon espace vital. Or, la solidarité qui fait, dans les temps de vie, comme celle du Covid-19, là, ce que nous venons de traverser, nous montre que autrui, loin d'être une limite à ma liberté, est la condition de ma liberté. Au contrat social des guerriers fatigués de s'entretuer, doit succéder le contrat social de la fraternité responsable. C'est une autre mentalité qui implique une conversion. Sa philosophie est que la liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature. La liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature. En amont anthropologique du social, il y a la morale. Le respect de la dignité de chaque personne est à la source de la moralité. Que certains viennent à donner la primauté à d'autres valeurs, des valeurs même très reconnues, telles que la liberté, la justice, la patrie, eh bien, alors ce déni du respect de la dignité entraîne la barbarie, entraîne des jugements expéditifs, entraîne les goulags et les tueries, sans pour autant d'ailleurs atteindre les valeurs politiques qui étaient recherchées. Les chrétiens ont ici un rôle primordial à jouer, car ils ne se trompent pas, ou plutôt, ils ne devraient pas se tromper. Ils ne devraient pas se tromper de dignité. La dignité est trop souvent prise pour synonyme d'amour-propre, pour synonyme de fierté. Dès lors, cette fausse dignité est proportionnelle à la haute idée que je me fais de moi-même. Cette pseudo-dignité est relative à mes qualités, elle est relative à mes performances. Et quand je viens à décliner en vieillissant, il me reste à mourir en préservant ma fierté, bref, en me suicidant. Mais la dignité dont parlent les chrétiens, c'est une dignité absolue et non pas relative aux qualités ou défauts de la personne. Un mourant a autant de dignité qu'un jeune athlète. Beaucoup en ont pris conscience avec la pandémie. Quelles que soient mes inconduites morales et mes déficiences mentales ou physiques, ma dignité spirituelle reste intacte car Dieu est incarné par la personne du Christ en chaque être humain. Cette dignité a le vent en poupe en 2020. Chrétiens, ne rasons pas les murs. Déployons les voiles de cette bonne nouvelle, oui. La dignité de chaque personne est sacrée, garantie sur Dieu. J'essaierai d'approfondir la semaine prochaine le sens écologique et spirituel de la sobriété. Pour aujourd'hui, je me contente de dire que l'écologie intégrale initiée par François implique, entre autres, une corrélation entre le souci environnemental et celui de justice sociale. Pour que les entreprises ressentent fortement le besoin de justice et de respect de la nature, nous pouvons introduire ces urgences dans le commerce lui-même. En achetant, le consommateur vote. Il vote à condition qu'il achète en connaissance de cause. Ça a assez bien marché pour le commerce équitable. Ça peut très bien marcher si produits et services affichaient leur traçabilité sociale et écologique, en plus de leur traçabilité chimique et géographique. Ce sera une forte pression sur les entreprises. Ce n'est pas à moi de définir les critères de justice sociale et de sauvegarde environnementale de l'amont des matières premières à l'aval de la distribution. Mais ce qu'il y a de sûr est qu'il faut d'urgence mettre bon ordre dans l'étiquetage souvent mensonger et flou des notations fantaisistes du bio et de l'écologique. Quant au social, aucune traçabilité à ce jour. Les consommateurs ne savent rien des conditions humaines des produits et services français ou d'importation. Et puis, il faut remettre sur la table la taxe Tobin sur les transactions spéculatives de capitaux. Mais nous aurons une autre émission pour en parler. Nouveau contrat social voulu par une majorité, une grande majorité, respect de la dignité sacrée de personnes attendues de la voix et des gestes des chrétiens, et traçabilité sociale et écologique pour acheter en connaissance de cause.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.